Transistor, c'est avec C'H à la fin, c'est prononcé à la finistérienne, c'est un clin d'œil au breton bien sûr, sinon c'est aussi une évocation de la transition écologique, un sujet qui nous est cher. Ce sujet se niche aussi dans nos usages numériques. Si, si, tous les domaines sont concernés. C'est pour ça qu'on a fait appel pour concevoir notre nouveau site internet à une entreprise spécialisée, les Octets Libres, qui développe des logiciels, notamment ceux pour administrer les sites web. C'est une entreprise du Finistère qui est basée à Quimperlé. Et cette entreprise a choisi de travailler le plus écologiquement possible, car oui, le numérique aussi, ça pollue, comme nous l'explique Sébastien Bertrand, l'un des fondateurs associés des Octets Libres.
Les Octets Libres, donc, on fait du développement de solutions numériques, des logiciels. On va travailler sur des logiciels sur mesure, c'est-à-dire des logiciels pour lesquels on ne va pas forcément trouver de solution sur le marché. Et on travaille dans différents domaines métiers. On n'a pas de domaine de prédilection. On peut intervenir sur tout domaine de métier.
En plus, c'est une entreprise qui a un statut particulier et qui mérite d'être signalée.
Oui, tout à fait. On a créé la société en 2018 en faisant ce choix un peu particulier de partir sur le statut SCOP, donc une société coopérative et participative. Donc ce que ça veut dire, c'est que les salariés chez nous peuvent devenir associés et donc participer à la vie et au développement de la société. On va avoir une gouvernance partagée et démocratique sur le principe de une personne, une voix. Et puis, au niveau des bénéfices, les bénéfices sont partagés pour tous, à la fois pour entretenir et développer la société, pour l'ensemble des salariés sous forme de participation, et au final, à l'ensemble des associés sous forme de dividendes.
Et un petit mot du nom, les Octets Libres, c'était pas tout à fait un hasard non plus, je suppose ?
Non, pas tout à fait un hasard. Alors, souvent, on pense au logiciel libre. Ce n'était pas tout à fait notre voie, parce que même si on utilise beaucoup de logiciels libres, nous, on était plutôt dans la liberté d'organisation. Donc, on est une structure. Aujourd'hui, on est 5 personnes. On n'a pas d'hierarchie. On travaille essentiellement de chez nous, on se retrouve en espace de coworking régulièrement. Donc chacun est maître de gérer son temps. Il y a beaucoup de liberté dans notre organisation. Et c'était principalement ça qu'on voulait faire passer dans le nom.
Et un grand principe des Octets Libres qui le distingue peut-être d'autres entreprises numériques, c'est l'éco-conception. Alors déjà, la première question, c'est on a toujours l'impression que le numérique, c'est plus écologique que, je sais pas, des déplacements, mais en fait, c'est pas forcément le cas, c'est ça ?
Non, pas du tout, au contraire, presque, hein, parce que bon, l'éco-conception, déjà, c'est d'avoir conscience, de prendre conscience des impacts environnementaux et sociétaux, de nos activités. Et ensuite, de penser, de concevoir des solutions alternatives qui soient moins impactantes. Et quand on parle du numérique, peut-être qu'intuitivement, on va penser à la consommation électrique des équipements, mais il n'y a pas que ça en fait. L'impact du numérique, il peut se jouer sur l'épuisement des ressources avec les terres rares qui sont utilisées pour concevoir les équipements électroniques. La consommation en eau aussi, en particulier au moment de la fabrication des équipements. On va parler aussi d'obsolescence rapide des équipements qui sont pas utilisés pendant des années et des années, voire de l'obsolescence programmée, hein, quand par exemple les équipements ne peuvent pas être réparés. La filière de recyclage aussi, elle n'est pas hyper performante. On peut avoir des décharges, en particulier dans des pays pauvres, donc en Afrique. On va avoir des décharges à ciel ouvert de déchets électroniques. Et puis, il y a aussi des impacts sociaux avec des communautés qui sont exploitées ou qui travaillent dans des conditions très, très difficiles, très dangereuses. On pense par exemple à l'extraction des terres rares ou encore au recyclage des composants électroniques.
Et puis même quand c'est pas dangereux, il y a les fameuses fermaclic, des gens qui sont en fait très peu payés pour faire pour cliquer, c'est ça, ou autre chose, d'autres tâches d'ailleurs. Hein.
D'autres tâches, oui, exactement. Donc voilà, il y a des impacts. Il y a des impacts qui touchent à l'environnement, des impacts qui touchent au sociétal. Nous, chez les Optim, on essaye au maximum d'avoir conscience de ces impacts et de réfléchir à comment on peut minimiser ces impacts dans notre activité. On achète pour nos équipements, on achète des ordinateurs reconditionnés. On n'achète pas d'ordinateurs neufs. Et surtout, on a travaillé sur une plateforme pour adresser la problématique de l'impact environnemental des sites vitrines. C'est-à-dire tous les sites internet que l'on consulte au quotidien et qui nous présentent une activité d'une entreprise, un site marchand ou des choses comme ça, et donc qui ont un impact numérique forcément. Nous on a essayé de développer une plateforme pour concevoir et exploiter des sites qui soient moins impactants. On l'a appelé Eco3Web.
Alors oui, parce qu'il faut aussi expliquer que le fait de surfer sur Internet ou de regarder une vidéo YouTube, en streaming, c'est de la circulation de données, donc c'est de l'énergie. C'est ça aussi que les gens n'ont pas forcément en tête.
Oui, c'est de l'énergie, c'est des serveurs qui doivent héberger ces données, ces vidéos ou ces pages qu'on consulte. Et tous ces serveurs consomment de l'énergie, consomment aussi de l'eau pour les systèmes de refroidissement, vont avoir cet impact sur l'environnement.
Et pour les sites, donc prenons un site vitrine, quels sont les systèmes qui consomment le plus d'énergie dans les sites internet de notre quotidien? Qu'est-ce qui est dévoreur d'énergie dans un site internet?
Alors ça va se passer à trois niveaux. En fait, quand on a conçu notre plateforme Eco3Web, d'ailleurs le 3 n'est pas innocent, on a réfléchi à l'impact que ça pouvait avoir au niveau de trois orientations. La première, c'est la partie visible d'un site web, celle qui s'affiche dans le navigateur, navigateur web. Donc là, on va appliquer plutôt des bonnes pratiques de programmation pour alléger le poids des pages du site, réduire par exemple le nombre d'échanges entre le navigateur et le serveur, peut-être revoir un petit peu la conception, le design graphique du site pour qu'il soit plus léger, qu'il y ait peut-être moins d'images ou des images plus légères. Réduire aussi peut-être, pourquoi pas, certains services qui ne sont pas forcément très utilisés. Donc ça, c'est la première partie visible de l'iceberg. Derrière ça, il y a une partie immergée de l'iceberg qui est hébergée sur les serveurs et qui est la partie technologique qui permet de générer les pages qui vont être présentées. En fonction des technologies qu'on va utiliser, la génération de pages va être plus ou moins gourmande, on va dire, en termes de ressources matérielles, en termes de temps de calcul nécessaire. Je vais prendre un exemple. Le plus conventionnel, les sites web les plus conventionnels s'appuient sur des systèmes qui vont générer les pages à la demande, c'est-à-dire quand l'internaute va consulter une page, cette page va être calculée par le serveur avant d'être envoyée à l'internaute sur son navigateur. Nous, on a fait le choix de prendre un autre système, une autre approche, où on va générer les pages uniquement quand elles sont éditées, quand elles sont modifiées, et pas quand elles sont consultées. Donc la page, elle est générée, et quand l'internaute consulte la page, il consulte directement la page qui a déjà été générée en amont. Donc il n'y a pas de recalcul qui est fait à chaque fois. Et là, on a une grosse optimisation en termes de temps de calcul et en termes de ressources nécessaires en termes de serveurs. Et la troisième dimension qu'on a voulu adresser, c'est justement l'aspect hébergement, l'aspect serveur, en choisissant des hébergeurs qui sont engagés eux-mêmes dans une démarche de responsabilité environnementale. Donc particulièrement, ce sont des hébergeurs qui vont faire attention à comment ils conçoivent leur centre de données, les data centers, parce qu'en fait, c'est des énormes hangars remplis d'ordinateurs qui chauffent énormément. Et donc, il y a besoin de refroidir ces centres de données. Et en fonction des systèmes qui sont mis en place, en fonction de l'architecture du bâtiment, de comment sont répartis les équipements, le bâtiment va être plus ou moins consommateur d'énergie et donc va avoir plus ou moins d'impact sur l'environnement. Il y a même certains hébergeurs qui plongent les serveurs, les cartes électroniques dans des bains d'huile qui permettent de les refroidir de façon beaucoup plus efficace que un simple refroidissement par air.
Et du côté des internautes, il y a aussi des habitudes à changer quand on a affaire à un site éco-conçu?
Pas vraiment. Enfin, ça dépend des sites. Fondamentalement, il n'y a pas de changement. Un œil attentif d'un internaute pourra peut-être détecter que tiens, le design graphique est plus épuré. Par exemple, il va y avoir de moins de grandes images en haute définition. On va être plus sur des images légères, voire simplement des images détourées, par exemple. On va peut-être avoir moins de vidéos aussi. Ou des vidéos avec dans une définition un peu moindre. Ce qui va se passer aussi, on va enlever peut-être certains services. Par exemple, on ne mettra pas d'assistance de chat en ligne avec une intelligence artificielle derrière. Tout ça, c'est à géométrie variable, en fait, parce qu'en fait, ce sont des choix que l'éditeur du site web va devoir faire. En toute conscience, finalement. Il faut peser le pour et le contre entre offrir une fonctionnalité ou de belles photos versus l'impact que ça va avoir au niveau de l'environnement.
Alors, dans le cas appliqué du site internet de Transistor Radio Évasion, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça suppose pour les utilisateurs? Il y a des labels, par exemple. En gros, comment ça se traduit?
Tout à fait. Donc la nouvelle version du site donc, qui a été de Transistor Radio Évasion, qui a été réalisée sur la plateforme Eco3Web. Donc nous l'avons évalué avec des outils d'analyse hein, qui sont publics, qui sont publiés par différents organismes. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, tout en bas de la page, on a un lien pour accéder à la page d'audit qui liste justement ces scores qui ont été évalués. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'éco-index sur le site de Transistor Radio Évasion, on a un éco-index qui a une note C sur une échelle qui va de A à G. Donc, on pourrait se dire que ce n'est pas une très, très bonne note. On a certains sites qui ont des meilleures notes. Et là, on rejoint justement l'idée de faire des choix. C'est qu'à un moment donné, il s'agit d'un site qui diffuse un flux radiophonique. Et donc, il y avait besoin techniquement que ce flux soit présent. Et ça induit des choix techniques qui font que ça réduit légèrement la note du site. Par ailleurs, les pages web qui sont produites sont des pages qu'on qualifie de statiques, hein, qui sont générées en amont, comme je l'expliquais plus tôt, et du coup qui ont une très très bonne note en termes de responsabilité, de rapidité aussi d'affichage.
Et comme nous, on modifie... On modifie notre site internet plusieurs fois par jour, et puis même certains articles, on les modifie. Là, ça suppose de la part des internautes un rafraîchissement qui ne se fait pas automatiquement. Ça, c'est lié à l'éco-conception.
Tout à fait, ça aussi, c'était un choix qui était important. Effectivement, il y a une production de contenu qui était assez importante hein, dans le courant de la journée. Pour autant, il n'y avait pas forcément besoin de diffuser en temps réel toutes les productions de contenu. Par conséquent, le choix qui a été fait pour optimiser justement encore un peu plus l'éco-conception, ça a été de diffuser les contenus une fois par jour. Donc je crois que c'est vers 19h le soir que c'est généré. Et du coup, ça implique effectivement le lendemain, si on n'a pas consulté et rafraîchi la page du site, ça suppose de le rafraîchir pour bien prendre en compte les nouveaux contenus. Et donc, il y a un petit message qui s'affiche quand on arrive sur le site.
À part les avantages environnementaux, les autres avantages de l'éco-conception, qu'est-ce que ça peut être ?
La rapidité du site. On peut être beaucoup plus rapide aussi en diffusion du contenu parce que, encore une fois, sur le choix technologique de générer les pages en amont quand elles sont modifiées et de ne pas les recalculer à chaque fois, et ben on économise du temps. Donc les pages sont tout de suite disponibles quand l'internaute les consulte. Donc ça, c'est un gain en rapidité. Sachant que d'avoir un site performant en termes de rapidité, par exemple, ça a un impact aussi sur le niveau de référencement sur des outils de recherche type Google qui vont donner une meilleure note aux sites qui sont rapides. On peut aussi avoir on a aussi un impact important sur la sécurité du site. Parce que sur les sites conventionnels qui calculent les pages à la demande, il y a donc un programme qui tourne sur le serveur à chaque fois que l'internaute fait une demande. Et il y a des risques d'injecter du code malveillant sur ces équipements et donc de mettre à risque le site. Là, dans le cadre de la plateforme Eco3Web, avec des pages dites statiques qui sont générées en amont, la plateforme, elle, n'exécute plus rien. On a simplement un serveur web qui sert des pages déjà générées. Donc, le risque est quasi nul.
Et puis, il peut y avoir un intérêt économique aussi, peut-être pas dans notre cas à nous, mais...
En termes de conception du site web, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, puisque le travail est relativement identique. On ne va pas travailler de la même façon, on va faire plus attention à certains critères. Mais en termes de développement du site web proprement dit, ça va être la même chose. Après, effectivement, en exploitation du site, c'est-à-dire dans la durée de vie du site, on va avoir peut-être un coût d'exploitation moindre. Et là, ça rejoint l'aspect sécuritaire du site. Parce que, justement, comme on n'exploite pas les mêmes outils, ces outils n'ont pas besoin forcément d'être mis à jour très régulièrement par rapport aux failles de sécurité qui sont levées quotidiennement sur des systèmes plus conventionnels. Et donc, ça réduit les coûts de maintenance sur le long terme.
Et pour les personnes qui font le développement web, est-ce que ça suppose une formation particulière, des compétences particulières ?
Une petite formation sur les bonnes pratiques de l'éco-conception en termes de design déjà, hein, pour le graphiste qui va concevoir le site. Il y a certaines bonnes pratiques à connaître et à suivre. Et pour le programmeur aussi. Donc, ça suppose d'avoir ces connaissances. Généralement, on va aussi en profiter pour appliquer les bonnes pratiques en termes d'accessibilité hein, pour des personnes qui ont des déficiences visuelles ou des choses comme ça. Et puis, en termes de référencement aussi, de s'assurer que le code est optimisé pour être bien référencé par les moteurs de recherche.
Notre site internet qui, pour l'instant, a toujours pour adresse radioévasion.net, mais ça va bientôt changer.